et ça démarre très fort parce qu'on a déjà une première question dans le fond de la salle. Moi je vais quand même vous en poser une avant, si vous le permettez. Vous faites une présentation quasi idyllique là, hein, de l'article 69 et de ce que vous pourriez faire. Mais est-ce que tous les médecins sont sur la même longueur d'onde que vous? C'est ça la question aussi.
Alors bien sûr que non, c'est idyllique, oui, parce que je vis mon idéal depuis que je suis petit. Et donc, bien entendu que c'est idyllique. Alors, bien sûr que non, c'est pas partagé par la totalité de la profession. Mais en même temps, dites-vous bien que vous avez quasiment 50% de la profession, je parle des médecins généralistes, 50% de cette profession qui va disparaître quasiment dans les 5 ans et qui va être remplacée par la totalité des jeunes qui arrivent sur l'exercice. D'accord ? Donc, on est dans un moment qui est vraiment un moment crucial pour l'évolution de ces métiers, pour l'évolution des relations intra-professionnelles. Donc, ça va prendre le temps qu'il faudra. Les pessimistes pensent qu'il faudra 30 ans pour qu'on arrive à un système qui fonctionne mieux. Moi, je fais partie des optimistes, je me dis qu'en 10 ans, on va y arriver. Et je pense que ça va aller assez vite, parce que la génération qui arrive est une génération très, très demandeuse en termes de coordination des soins.
Allez-y, monsieur.
Oui, Luc Thil, directeur du centre hospitalier Camille Claudel, en Charente. Alors, premier point, je sais où se trouve Pondin. Je voulais vous préciser, étant petit, j'allais pêcher là-bas, avec des copains. À l'époque, la rivière d'Ain n'était pas aménagée comme aujourd'hui. Enfin, bon, passons.
Dans l'Ain ou dans le Suran?
Dans l'Ain, vers Rouen. Et ce que je voulais dire, enfin, moi, je me félicite de ce que vous dites. Je le partage totalement. Vous dites que vous avez 30 ans d'activité, mais vous parlez quand même de la médecine d'avenir. Ensuite, ce que j'apprécie, mais je vous aurais pardonné hein, quand même, vous avez fait tout un discours et vous n'êtes jamais plaint. C'est à souligner, parce qu'actuellement, on est tous un peu dans la plainte. Je pense qu'on a tort. Par ailleurs, les hôpitaux psychiatriques qui ont un dispositif de soins psychiatriques en santé mentale, leur avenir, au-delà de la psychiatrie de liaison, qui d'ailleurs ne concerne pas que l'hôpital général, la liaison, on peut la faire avec n'importe qui, y compris avec sa voisine, l'avenir de la psychiatrie publique, c'est d'être en lien avec la médecine de ville, c'est d'être en lien avec les services sociaux et l'éducation. Le reste suivra, justice et tout ça. Et je voulais vous poser une question un peu très pratique, qui est anecdotique en fait, pas si importante, qui est factuelle, mais qui, à mon avis, peut contribuer à rassembler et justement à prendre des décisions ensemble. Actuellement, chaque fois qu'il y a une maison de santé qui est en train de s'installer et qui est au bon endroit pour nous, on peut supposer que toutes les maisons de santé sont au bon endroit, grosso modo, on essaye, nous, d'être du projet et d'être avec les médecins de ville, les infirmières, kinés ou autres, et d'y installer un centre médico-psychologique dans les mêmes locaux. Bon, la Charente, c'est un petit département. Mais pour ceux qui connaissent, on est en maison de santé à Roumazières, à Confolens, on le sera à Barbezieux, on le sera à La Rochefoucauld, on sera à Chabanais. On ne le sera pas pour l'instant à Angoulême, parce que les choses s'organisent autrement au niveau de la médecine de ville, ni à Cognac, où là on a nos propres locaux. Mais le fait de partager des locaux, comme il fut une époque où la psychiatrie partageait des locaux avec les services sociaux du département. Et que lorsqu'ils sont devenus grands et riches, les départements, enfin, il paraît qu'ils sont pauvres maintenant, ben, on l'a un peu poussé dehors. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on était de bons colocataires, hein, c'est un autre problème. Et par exemple, à Barbezieux, la MDS nous rejoindra. Et ça veut dire qu'on sera ensemble, éventuellement dans des zones qui ont des problématiques de liaison, etc., etc. Et pour la population, ça sera un lieu où on pourra trouver la médecine, la psy, qui est aussi de la médecine, et la MDS. Et ça me paraît intéressant.
Merci.
Et voilà.
Merci pour cet exemple. Il n'y avait pas vraiment de questions, en fait, hein, dans votre intervention.
Non, non. Bon,
on est bien d'accord.
Je voulais jamais, être sûr d'avoir... Moi, jamais. J'observe. Mais vous, c'est... Je n'ai même plus de questions à vous poser. Je sais qui vous êtes.
Madame veut poser une question devant aussi.
Ça marche. Je suis Dr Caudrier, je suis psychiatre et présidente de CME. Je rebondissais juste sur le fait que depuis les années 60, la majorité des soins psychiatriques sont en ambulatoire. c'est-à-dire autour des centres médico-psychologiques, avec tout le redéploiement qu'on a commencé à évoquer, avec les hospitalisations à domicile maintenant, avec les hôpitaux de jour. Donc l'articulation équipes de santé de soins primaires et hôpital, c'est plutôt souvent l'articulation qu'il doit y avoir entre CMP et structure extérieure, parce que c'est ça le virage ambulatoire, et vous. Hein. Soit, comme vous le disiez, par la télémédecine, qui est quand même, je pense, quelque chose d'avenir sur le territoire, et évidemment les courriers électroniques, etc. etc. Donc vous voyez comment cette articulation, parce que j'entends bien installer un CMP dans chaque dispositif, mais c'est très chronophage. Et c'est quand même quelque chose qui est parfois dans des départements ruraux compliqué à installer. La question se pose toujours d'aller vers le patient, mais aussi de pouvoir offrir des offres un petit peu regroupées.
Est-ce que tout le monde a bien entendu la question ? Oui ? Bon, je vous laisse répondre. Merci.
Oui, bien entendu. Hein. Tous les manuels de management disent que la plus-value d'une structure, c'est à la cafétéria ou à la cantine. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où les gens se croisent et se causent. Quoi. C'est pour ça qu'on a fait des maisons de santé. Moi, quand je croise une infirmière, je lui dis « Salut, salut ». Elle revient, elle dit « Attends, il faut que je te parle de Madame Dupont. Ah, » Tiens, on va parler de Madame Dupont. Quoi. Donc, en plus, on a dans ces structures ce qu'on appelle des revues pluriprofessionnelles. C'est-à-dire qu'on a pompé l'idée des RCP, des cancéros. Quoi. Donc, tous les mois, chez nous, c'est RPP. Et tous les dossiers complexes qui posent des problèmes à l'équipe soignante sont évoqués devant la totalité. Et quand ce patient est évoqué, bien entendu qu'on fait signe aussi au secteur social, parce qu'il y a toujours des implications sociales quand les dossiers sont complexes. Et nous, ce sera extraordinaire de pouvoir aussi appeler, que ce soit l'infirmier psy du secteur qui s'en occuperait, ou que ce soit la personne du CMB qui pourrait venir, ou qu'on branche un Skype, et puis on se fait une téléconférence ensemble sur ce dossier. Ça dure 10-15 minutes, vous voyez ce que je veux dire, mais on prend des décisions. Et plus on est de professionnels autour. Donc, il y a plein de... Le deuxième élément, la deuxième réflexion que me renvoie votre question, c'est que qui envoie les patients la plupart du temps dans les secteurs spécialisés, hein, pas que dans la psychiatrie à l'hôpital, c'est tout, les soins primaires, la plupart du temps, qui envoient. Bon, il y a des accès directs, puis après, il y a des gens qui sont pris en charge complètement, puis nous, on est paumés quand ils n'ont plus accès. Et donc, aujourd'hui, si je fabrique des micros comme ça, en tant qu'industriel, je vais commencer à les visiter, les fabricants de mousse, les fabricants de composants. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement aucun médecin hospitalier qui va visiter ce que je pourrais appeler ces unités de production locales. On a commencé chez nous, et on a des équipes de cardiologues, d'urologues et d'autres spécialités qui sont venues. Ça recrée du lien entre professionnels de santé. Les gens, quand ils se quittent, après avoir mangé des pizzas, bu du Beaujolais, chez nous, c'est un peu encore le problème du Beaujolais, ou du Cerdon, ils s'échangent leur numéro de mobile. Et en fait, tout l'objectif, c'est de recréer du lien en fait, entre les professionnels. Donc que ce soit avec le CMP, ou que ce soit directement avec le centre psychothérapeutique, ou que ce soit avec un infirmier sur un territoire, si tant est qu'il y en ait un, la décision vous appartient plus à vous qu'à nous. Nous, ce qu'on veut, c'est du lien avec le secteur, parce qu'on sait que les patients qu'on suit, ils nous échappent très souvent. Encore pas longtemps, j'ai une de mes patientes qui s'est fait engueuler par le psychiatre de l'hôpital, parce que je m'étais permis de modifier un traitement, parce que je n'arrivais pas à la joindre au téléphone, qui avait des effets secondaires, et en lui disant, le médecin traitant n'a pas le droit de toucher à mon ordonnance. Vous voyez. Des trucs comme ça ne devrait plus exister qu'au XXIe siècle. Décrocher un téléphone, s'appeler, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez. Mais on voit bien qu'on sort d'un univers, qu'on va vers un autre, qu'il faut recréer du lien. Et moi, je ne pourrais pas vous dire si c'est plutôt CMP, psychiatre, infirmier psychiatrique, etc. Ce que je sais, c'est que nous, on a des dossiers lourds qu'on porte et qu'on a besoin de liens avec ceux qui soignent les patients.
Est-ce qu'il y a encore une... Oui, pardon, Pascal.
Petite question complémentaire.
Pardon, me permettre de réagir là-dessus, parce qu'on l'avait évoqué notamment les années précédentes. Il y a deux aspects dans la question. Qu'il s'agisse des CMP ou d'autres structures, à la limite, on s'en moque un peu. C'est pas la boîte qui nous importe. Ça prouve bien qu'il faut que nos équipes ambulatoires de secteur se mettent en mobilité pour aller y compris dans les CMP, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, pardon. Moi, j'ai eu l'occasion, enfin, tout comme sans doute beaucoup d'entre nous, d'en parler au moins ponctuellement avec des équipes qui étaient sur des projets de ce type. Elles attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne ponctuellement se poser avec elles pour faire des revues. Des revues de situation de patients, je ne sais pas trop comment les qualifier à ce stade. Donc il y a ce premier aspect. Moi, personnellement, je crois plus à la mobilité dans l'immédiat qu'à de la télémédecine, qu'on a énormément de difficultés à mettre en œuvre parce qu'elle n'est pas dans la culture pour l'instant, même si j'admets que petit à petit, les évolutions générationnelles feront peut-être leur œuvre. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me frappe quand on en discute avec ces équipes, c'est qu'elles considèrent a priori que les CMP ne sont plus accessibles. Et on voit bien d'ailleurs dans votre propos qu'on parle tout de suite d'hospitalisation le contact ou la demande de contact, mon propos il est peut-être un peu caricatural, intervient souvent au moment où il va falloir, où on s'interroge sur une hospitalisation, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas avec les CMP ou nos équipes de premier recours. Et je pense, et ça fait écho à ce que vous évoquez, qu'un des points sur lesquels il faut qu'on travaille, c'était implicite dans votre propos, c'est cette prévention croisée pour éviter que le médecin généraliste et la famille avec lui soient systématiquement demandeuses d'une hospitalisation parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé normalement avant, voire qui ne s'est pas passé du tout. Ça, je crois qu'on en a plus ou moins conscience, qu'il faut qu'on révise nos gammes.
Monsieur à gauche. Pardon, il y a quelqu'un d'autre ? Je ne vois pas. Levez la main.
Je suis là.
Pardon, veuillez m'excuser. Oui.
Philippe Pichon, je suis médecin généraliste en centre de santé à Grenoble, membre de la Fédération nationale des centres de santé. Merci beaucoup à Pierre Dehaas pour son exposé extrêmement clair. Il se définit comme quelqu'un de très optimiste et je l'entends bien. Je pense qu'il pourrait être un tout petit peu plus optimiste, un petit peu moins que notre collègue des Charentes, mais l'idée, c'est qu'on est sur des structures pluriprofessionnelles. Ce que je n'ai pas entendu est qui est une expérience qu'on porte, nous, au centre de santé de Grenoble, en collaboration avec le centre hospitalier, c'est l'intégration d'un psychiatre dans une équipe pluriprofessionnelle. On a, ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est l'intégration d'une MSP et d'un CMP, deux grosses structures qui viennent se mettre ensemble. J'en rêve aussi. J'espère qu'un jour, on y arrivera aussi dans l'agglomération grenobloise. Ça me paraît lourd. On peut y aller. Par contre, dans ton exposé, le psychiatre, il est par Skype, il est à distance. Nous, on plaide sur notre structure, sur l'intégration, soit physique avec un psychiatre dans l'équipe de soins, soit sur une liaison proche, mais on a ce constat qui est décrit dans la littérature, les travaux de Mme Hardy-Belay, une thèse qu'on a développée aussi dans une des maisons de santé dans l'agglomération grenobloise. Il y a une vraie défiance entre la médecine générale et la psychiatrie. Je pense que l'intégration d'infirmiers psychiatriques ou de psychiatres dans les équipes de soins comme un membre de la pluriprofessionnalité me fait penser qu'on doit pouvoir améliorer le lien pour les cas complexes, aigus, complexes, enfin durs que tu décrivais tout à l'heure. La décompensation psychotique qui met en danger le patient, en grande difficulté les familles, le patient et les soignants. Mais je pense aussi en amont sur ce que évoquait M. Mariotti, c'est-à-dire l'anticipation des décompensations. Ne plus jamais entendre, c'est ce que tu viens de décrire, le psychiatre qui t'engueule parce que tu as modifié son ordonnance, puisque cette concertation peut se faire. Et il faut qu'il y ait une connaissance réciproque, une proximité qui fait qu'on retisse le même lien entre le psychiatre et le médecin généraliste qu'avec le médecin généraliste et son infirmière, ce médecin généraliste avec son cardiologue de référence, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut porter, dans le mouvement de la Fédération des soins primaires, l'intégration d'une psychiatrie de premier recours en proximité directe avec les acteurs de premier recours que sont les acteurs des maisons de santé, centres de santé, médecins généralistes et autres intervenants. Est-ce que ça, c'est un objectif crédible ?
Alors, oui, réponse avec plaisir, mais alors rapide, pareil pour les questions qui suivent, parce que sinon, attendez, monsieur, un instant, parce que sinon, on n'arrivera pas à tenir les temps ce matin.
Je partage ton envie, quoi, sauf que je veux dire que c'est pas à moi de dire à la psychiatrie comment s'organiser. Le deuxième point, c'est que le psychiatre, il a un territoire qui est beaucoup plus large que la maison de santé ou que le centre de santé moyen en termes d'espace. Nous, on soigne quelque chose comme 8000 patients et le psychiatre est sur des territoires qui sont beaucoup plus larges. Donc oui, bien sûr, un infirmier psychiatrique qui serait sur le territoire et qui partagerait avec nous les locaux sur un territoire de 8000 patients, parce que c'est la taille moyenne, en fait, une structure, oui. Psychiatre, après, c'est au secteur psychiatrique de décider. Moi, ça me ferait très plaisir comme toi, qu'il y ait quelqu'un dans les murs, même à temps partiel. Mais après, ce n'est pas à moi de juger de l'organisation de ce secteur-là, même si j'ai quelques idées comme toi sur la manière dont ça s'organiserait à notre profit.
Et on aura l'occasion tout au cours de la journée d'en parler. Hein. Rassurez-vous, il y a d'autres exemples qui seront présentés. Monsieur.
Merci de me donner la parole. Jean-Pierre Blin, je suis retraité, membre de 3 associations de malades et de proches de malades ayant des troubles psychiques. Alors, c'est une expérience que j'aurais préféré ne pas avoir en tant que retraité. Hein. Franchement, travailler, pour moi, c'est plus sain que ce que je vois dans les associations de proches de malades. Alors, je donnerai quand même le point de vue d'un médecin du travail qui a 2 enfants schizophrènes et qui dit, pour lui, ça a été un labyrinthe. Il a une de ses filles qui vit en Belgique pendant la semaine et qui revient le week-end à Paris. Et il a son fils qui passe dans les associations comme il peut à gérer son temps, puisqu'il a un handicap psychique grave. Pour moi, je dirais quand même qu'il y a souvent, y compris dans les textes de loi, puisque nous avons des élus dans cette assemblée, j'en suis très honoré, C'est très important de ne pas oublier que les malades sont sûrs de ne pas être malades ou au moins ne perçoivent pas leurs troubles. Alors ça, c'est des enquêtes qui sont relativement récentes, mais tout le monde l'oublie. Alors si on ne pense pas à ce fait-là, évidemment, l'organisation ne convient pas. Et l'organisation, moi, j'ai le même point de vue. Hein. Faire hospitaliser ma femme parce que les textes dits de guide dans les livres qu'on trouve disent qu'il faut passer par le CPOA à Paris et puis c'est ce qu'il y a de mieux, c'est complètement faux. J'ai beau l'écrire à Madame la Ministre, c'est simple. Il faut savoir signaler qu'un malade a besoin de soins sur le lieu de travail. Eh bien oui, puisqu'il est sûr de ne pas être malade, il ne va pas aller voir son médecin, ni le médecin du travail, ni le médecin traitant. Moi, je l'ai demandé, juste avant du texte de loi, un petit peu avant, pendant la préparation. Et on m'a répondu poliment, très honoré, mais ce n'est pas ça que j'attends. J'ai une organisation qui ne soit pas quand même l'organisation de l'armée française en 40 avec le général Gamelin. C'est-à-dire que dès qu'il y a des difficultés, ah ben c'est pas moi, allez voir à la porte d'à côté. Merci de votre attention.
Merci monsieur. Alors là, on entame déjà la discussion de l'échange qui va démarrer maintenant. Dernière question, madame Finkelstein, si vous le voulez. Et puis après, on invite monsieur Kurt à nous rejoindre.
Je vous remercie pour ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que ce n'est pas mon monde. Moi, je suis représentante des usagers. Je suis présidente de la FNAPSI, la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Donc les patients directs. On a beaucoup un regard très important vers les centres de santé, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, pluridisciplinaire, mais on aimerait qu'ils soient beaucoup plus accessibles pour nous. Nous sommes des personnes qui ne nous soignons pas, à la fois parce qu'on est stigmatisé par les médecins et en même temps parce que nous-mêmes, tout ce qui est un problème physique, somatique, passe derrière la souffrance psychique. Vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer. Vous le savez aussi bien que moi, mais quand même. Alors, nous, notre rêve, ça serait qu'il y ait, non pas dans les CMP, parce que le CMP, on n'est pas, les CMP sont au plus proche des personnes, donc ne sont pas obligatoirement proches, et vous ne pouvez pas en faire assez. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'entrée de chaque hôpital psychiatrique, notamment les hôpitaux psychiatriques, sont souvent dans des... Alors, je pense notamment à Nice, des déserts médicaux, parce que c'est un endroit un petit peu à l'est, mal famé, etc., etc. Qu'il y ait un centre de santé à l'entrée de l'hôpital psychiatrique où il y aurait des généralistes qui, par ailleurs, sont généralistes dans la ville, mais viendraient faire des vacations, une demi-journée ou quelques heures par semaine, et où on pourrait trouver tout, pluridisciplinaire. Généraliste, bien sûr, dentiste, vous savez, le problème des dentistes pour nous, hein, c'est très important, les médicaments attaquent les dents, enfin, il y a des tas de soucis et on n'y va pas chez le dentiste. Kiné, tout ce dont on a besoin et qui en même temps serait déstigmatisant pour l'hôpital psychiatrique puisque ça serait un centre de santé où la personne qui va aux urgences avec la petite qui a une bronchiolite pourrait passer parce que là on accepterait facilement au lieu d'aller aux urgences. Et qui, après, quand la petite ou le petit arriverait à 17-18 ans, prendrait du cannabis et aurait besoin d'une réponse psychiatrique, n'aurait plus peur d'aller dans ce centre de santé qui pourrait passer plus facilement au psychiatre. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un gouffre entre les soins somatiques, que ce soit dans l'hôpital ou à l'extérieur, et les soins psychiatriques. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas seulement la lettre qui n'est pas envoyée de par l'un ou par l'autre, ou je connais ça, hein, se faire engueuler par son psychiatre parce que le généraliste a eu l'outrecuidance de changer un petite virgule sur le... Hein, on connaît ça, chez nous c'est normal, on a l'habitude. Alors on se tait et des fois on change de généraliste. Ouais, le problème il est là. Hein.
Merci.
Et on aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit... envisager, au moins discuter.
Je ne suis pas sûr que ce soit M. De Haas qui puisse répondre à cette question-là. Hein. Enfin, la deuxième partie, la première, oui, peut-être, mais la deuxième, c'est un peu compliqué.